France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Jean-François Civadier. Vers 19h45, le son du jour, Bad Idea, de Vera Sola. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir, pour une fois, à Paris, pour nous faire visiter tout en camon l'expérience immersive pharaonique présentée aux galeries Montparnasse. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Jean-François Civadier.
Bonsoir.
Sentinelle, dont vous signez texte, mise en scène et scénographie, est actuellement à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris, jusqu'au 10 février. Il y aura d'autres dates au Théâtre National de Nice du 14 au 16 février. Longue exploitation pour un spectacle qui connaît un grand succès et dont le texte est publié aux Solitaires Intempestifs, cette pièce qui s'interroge sur la façon dont on devient un artiste, sur la question que se posent les artistes. C'est une occasion un peu idéale pour moi de vous inviter, puisque ce sont les questions que je pose chaque soir à mes invités. Alors il y a d'abord bien sûr la question de la vocation, qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette vie d'artiste, pourquoi cet art-là? On a toujours envie de s'intéresser aux parents. Les vôtres, Jean-François Civadier, avant de devenir parent, avaient vécu en Afrique. Votre père promenant un cinéma ambulant, votre mère faisant de la radio. Puis ils sont rentrés en France et ont eu deux fils, votre frère Pierre-Michel, dont on va reparler. Puis vous, votre mère meurt quand vous êtes adolescent. Mais que vous ont raconté vos parents de leur vie d'avant vous?
Une grosse question. Bah, c'est intéressant parce que mon père vient d'écrire il y a quelques années un livre où il a raconté ses années en Afrique noire dans les années 60. Donc où il était avec un camion et il s'installait dans les villages. Voilà, il arrivait le matin, il tendait des toiles entre les arbres dans les villages et il passait des films américains, des westerns, John Ford ou King Kong. Enfin et il est resté 10 ans à faire ça en Afrique. Donc il a écrit un livre il y a pas très longtemps. Il est âgé maintenant, mais et donc je sais ce qu'il a raconté dans ce film. Je sais je sais ce qu'il a. Des choses qu'il nous a racontées, enfin voilà, mais c'est très vague quand même.
Alors quand vous aviez respectivement, je crois, 10 et 12 ans avec votre frère, vous commencez à concevoir des spectacles musicaux, à vous les marionnettes, à lui l'orgue électronique. Le public va s'élargir ensuite à vos cousins, et puis ce seront des petits films avec une caméra
Super 8. Vous avez tout ça.
On a une équipe de détectives dans cette émission qui cherche toutes les informations. Anouk Minaudier, Lise Ripoche, Bérénice Fourceau et Garay, Jules Barbier font ça très bien. Vous pensez que le désir de raconter des histoires, il vient d'où?
Aucune idée. Mais c'est marrant parce que je sais que les frères Podalydès, ils faisaient la même chose quand ils étaient petits. Ils faisaient des spectacles aussi. Je sais pas du tout d'où
Peter
ça vient.
Peter Brook aussi. Peter Brook aussi.
Ouais. Je sais pas du tout d'où ça vient, ce désir de raconter des histoires, de faire le clown, d'inventer des spectacles. Je sais pas, c'est des choses qu'on reçoit, des films qu'on voit, et tout à coup on a envie de retransmettre les émotions qu'on éprouve. C'est très curieux, hein. Je sais pas du tout en fait.
Mais
c'est
par
vrai
exemple,
que ça a commencé très jeune.
Vous parlez des activités de votre père en Afrique. Est-ce que très jeune il vous a montré des films?
Non, j'ai vu des films à la télé comme tous les enfants, très tôt, mais j'étais pas. Non, il m'a pas montré les films particulièrement qui projetaient en Afrique.
Le mystère reste entier. Alors, en tout cas, votre frère, lui, va continuer dans la musique, et on va commencer avec lui et avec votre choix musical pour cette émission qui s'est portée sur une chanson de votre frère, donc Pierre-Michel Civadier, à la grâce de toi qu'il avait composée pour Jane Birkin, mais là, on va l'entendre. Par lui, quelques mots sur...
Oui, le texte est de...
Et de Jane Birkin et la musique de lui.
Voilà, c'est une chanson qui est née de leur collaboration. J'ai pensé à cette chanson parce que Il y a quelques jours, j'ai assisté à une soirée hommage à Jane Birkin au Théâtre National de Bretagne. Et tout à coup, j'ai repensé à cette chanson en voyant la projection de plusieurs photos d'une femme dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui était sa meilleure amie et une grande photographe et qui l'a suivie toute sa vie et qui a fait des photos de Jane magnifique. Et voilà, j'ai repensé à cette chanson à l'occasion pour cette émission de ce soir.
On écoute « À la grâce de toi » par Pierre-Michel Sévadier.
Pourquoi la grâce de toi me frappe ensommeillé ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle-toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme au ralenti et les rires ont un écho des plages de l'oubli? Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps? Trop faible pour nager à contre-courant, la vie envoie des vagues imprévues de mélancolie. Bafoué, ballotté, te voilà blotti comme les marins qui repèrent dans une tempête l'abri. Je bénis les dieux en qui je ne croyais plus de m'avoir donné un enfant à garder une nuit. Pourquoi la grâce de toi me frappe ensommeillé ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle-toi dans mes bras. À contre-courant, la vie envoie des vagues imprévues de mélancolie.
Après avoir écouté votre frère Pierre-Michel Sévadier, on poursuit avec vous, Jean-François Sévadier, pour dire alors que vous avez fait le Conservatoire du Mans, votre ville natale, plus tard vous irez à l'école du Théâtre National de Strasbourg, mais entre les deux, il y a l'année de vos 20 ans, je crois, votre entrée dans la compagnie d'André Cellier, fondateur du Centre Théâtral du Maine, précédemment directeur du Centre Dramatique de Tours, mais entre-temps il y avait Jean Royer qui était passé par là. Alors flashback, 74, le Centre Dramatique de Tours accueille un Tartuffe mis en scène par Roger Planchon avec Georges Géré qui joue Orgon. Le directeur du théâtre, André Cellier, en livre sa critique, c'est juste pour le plaisir d'entendre sa voix.
Alors j'ai vu le spectacle hier soir et je veux dire que c'est un spectacle assez étonnant, qui a très bien marché. Et quant à Géré, moi j'étais très 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 intrigué par ce que Géré pouvait faire dans un personnage classique comme ça. Et je trouve sa performance assez étonnante. Il rend remarquablement le côté humain, désarçonné des rapports entre un père de famille, avec de l'autorité, avec des enfants avec qui ça marche plus. Enfin ce côté-là est remarquablement rendu. Et avec une grande pudeur, une grande discrétion, ce que Planchon et ce que Molière d'ailleurs a mis dans le texte, c'est-à-dire les rapports passionnels entre Tartuffe et Orgon qui sont rendus avec d'une très grande clarté et en même temps d'une très grande pudeur.
Le 16 janvier 1974, hein, André Cellier, dans cet entretien où il y avait Georges Géré qui était invité, il dit « J'ai envie de faire le critique », alors c'est pour ça qu'il nous donne sa vision, mais pour entendre sa voix, quelle place il occupe dans votre formation de comédien?
Non, mais je suis très très ému de l'entendre, parce que d'abord il y a très peu d'enregistrements audio, ou même Y a un film de Costa Gavras, je crois, dans Z, où il a une scène avec Vitesse, ou alors c'est pas Z, c'est un autre.
État de siège, peut-être.
Peut-être. Avec Montand.
Alors il y a quelques dramatiques, où on l'entend en radio, quoi, qui sont à l'INA, mais.
Ouais. Non, mais c'est
en
incroyable,
parlant,
parce que c'était une figure extraordinairement puissante. Je pense un peu à la Planchon, puisqu'il est vraiment de l'école de Planchon. Et il était très autoritaire, il avait des colères extraordinaires. Il m'adorait, mais j'étais un peu, je dois dire, son souffre-douleur, quoi. Il m'aimait.
Chouchou, souffre-douleur?
Hein?
Chouchou et souffre-douleur?
Exactement.
Dans le même mouvement.
Ouais. J'étais accessoiriste, j'étais comédien, assistant, je m'en prenais plein la gueule, mais en même temps, c'était une école extraordinaire. Parce que c'était vraiment des spectacles. C'est le premier qui m'a engagé professionnellement pour La mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller. Et voilà, c'était une expérience incroyable qui a duré 3 ans. Ouais. Et dans sa troupe, il y avait Didier-Georges Gabilly.
On y arrive, évidemment. Ouais. Mais dans ce centre théâtral du Maine, dans ces années-là, il y a les rencontres artistiques et on y vient, mais il y a aussi l'opéra, l'atelier lyrique du Maine. Il y a aussi les spectacles qui passent au Mans. Vous avez vu Vitesse, vous avez vu Mnouchkine. Dans ces années-là.
Mouchkine, je l'ai vu au Théâtre du Soleil, mais effectivement, dans ces années-là, j'ai découvert au Mans Lucrèce Borgia montée par Vitesse, et ça a été un choc incroyable. J'y suis retourné le lendemain, d'ailleurs. C'était vraiment, c'est marrant parce que j'en parle très souvent de ce spectacle. J'en ai parlé avec Nada Strancar il y a encore une semaine. C'est des chocs dont on se remet pas vraiment, en fait. Hein. Je m'en suis pas encore remis, je crois, de ce spectacle. Du choc que j'ai eu quand je l'ai vu. Et puis aussi, j'ai...
De quelle nature, ce choc? Quel mot vous mettre dessus?
Et ben, en fait, parce qu'on se rend compte que l'émotion qu'on a eue en voyant un spectacle, même à cet âge-là, à 20 ans, où ça a été déterminant, je me suis dit, ah oui, le théâtre, c'est aussi ça. Je me souviens qu'il y avait... J'avais l'impression qu'il y avait du vent sur le plateau, que l'espace était vide, il n'y avait que les comédiens, il n'y avait pas d'accessoires. Je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas d'accessoires dans ce... Et tout était nécessaire, la parole était incroyable. Et j'ai été complètement transformé. Ouais. Et donc ce choc, qui était le même choc quand j'ai découvert le travail de Mouchkine avec Henri IV, où il y avait Georges Bigot, Philippe Autier... Et tout d'un coup, j'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête, quoi. C'était. Je me souviens encore de l'émotion que j'avais, quoi.
Ouais. C'est pour ça qu'on aime l'art et le théâtre. Puis, bien sûr, donc, vous l'avez dit, la rencontre avec celui qui deviendra auteur et metteur en scène, il est Georges Gabilly. Mais quand vous le rencontrez, il est encore seulement comédien, un artiste qui a durablement marqué toutes celles et tous ceux qui ont croisé sa route, mais sa mort, très prématurée, à 40 ans, en 96, n'a pas permis de laisser une grande trace dans le public. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, Gabilly?
Il nous regardait, tout simplement. Je pense que on n'a jamais été, tous les acteurs qui ont travaillé avec lui seront d'accord avec moi, on n'a jamais été regardé comme ça sur un plateau. C'est-à-dire, pour moi, il arrivait... à révéler la part poétique de chaque personne qui entrait sur le plateau. Il a même fait, à un moment donné, travailler son assistante, qui n'était pas du tout comédienne. Il l'a mis sur le plateau dans un atelier, et tout à coup, elle a été totalement transfigurée. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Et sur le plateau, même si c'était très difficile de travailler avec lui, c'était toujours très jouissif. Ce qu'on avait à faire sur le plateau nous rendait heureux et libres. Même si on avait très peur d'entrer sur le plateau devant lui, mais c'était mais je pense que c'était surtout un regard amoureux, passionnément amoureux. Donc dans la passion amoureuse, il y a aussi une chose très violente. Hein. Il était violemment amoureux de ses acteurs. Bon, voilà quoi. Après, on pourrait en parler des heures.
Bah, on va l'écouter, pas des heures, mais un petit extrait quand même des Nuits Magnétiques sur France Culture en 94, Didier-Georges Gabilly.
Je crois qu'il y a une chose qui se passe dans ça que tu appelles la vocation, et que moi j'appellerais l'obstination, mais ça revient au même. C'est en permanence le fait de penser qu'on n'aura jamais le temps. Et ce jamais le temps, tout d'un coup, finit par créer des espaces de temps qui sont tout à fait particuliers, qui peuvent être extrêmement violents, mais qui peuvent être aussi des moments de désespoir absolu, alors là, et très long, hein, dans lequel tout fuit. Tout est comme à perte, et c'est sûrement là que le meilleur du travail se fait. Mais ça, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir accepter cette espèce de dépression consécutive à tout ce qu'on arrache, à tout ce qui s'arrache de soi.
Olivier Georges Gabilly n'a plus que un an et demi à vivre après cette archive-là.
Ça, c'est une phrase magnifique. Accepter la dépression consécutive.
Tout ce qu'on s'arrache.
Tout ce qui s'arrache de soi. Tout ce qui s'arrache. C'est un auteur qui parle. Et Dieu sait que pour lui, écrire, c'est un arrachement. Vraiment.
C'est ça qui reste imprimé en vous, pour le coup.
Je crois qu'il y a une chose. C'est par exemple, je pense que les acteurs qui ont travaillé avec lui. Enfin, moi, par exemple. Maintenant, comme metteur en scène, je pense que je pense à lui tout le temps, même quand je m'en aperçois pas, en fait. Je vois certains de mes spectacles et je me dis, tiens, c'est incroyable, cette chose-là vient de Didier, en fait. Mmh. Cette façon de regarder le plateau. Et chez les acteurs, il y a aussi un rapport au corps. Je pense que Nicolas Bouchaud, il a énormément ça. Par exemple, la façon dont Didier dirigeait les acteurs, bien qu'il ne théorisait jamais son travail, il a insufflé dans le corps des acteurs qui ont travaillé avec lui une chose qui se reconnaît énormément.
Évidemment, on va parler de Nicolas Bouchaud, mais pour revenir à votre parcours, Jean-François Sivadier, c'est quelques mois à peine avant la mort de Gabilly que vous mettez en scène pour la première fois. Texte de vous, qui plus est, italienne avec orchestre, qui deviendra un peu plus tard italienne scène et orchestre, réécrit. La deuxième mise en scène, c'est aussi un texte que vous signez, Noni Metinguere, que vous réécrirez aussi plus tard. Mais après ces deux premières créations, il faut attendre plus de 20 ans pour arriver à Sentinelle, pour que vous créiez un de vos textes. Qu'est-ce qui vous a tenu aussi longtemps éloigné de l'écriture?
Je ne sais pas. Mais j'adore ça, et si je pouvais, je pense que je ferais que ça, en fait. Écrire. Alors moi, ce qui m'aide quand même, c'est que à chaque fois que j'ai écrit, c'était pour des acteurs précis, et c'était des spectacles dont je savais que j'allais les monter moi-même. Hein. Donc ça m'aidait énormément de penser à l'écriture. C'était aussi penser au spectacle, à la mise en scène et.
Et aux interprètes.
Mais ce qui m'a tenu éloigné, c'est que j'ai fait d'autres choses et que.
Beaucoup.
Oui. Et puis que. Mais l'écriture, ça me travaille toujours énormément.
Ouais. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on en attend d'autres. Il y en a que trois textes de Jean-François Sivadier. C'est pas assez. Mais on va revenir dans un instant sur Sentinelle. Mais est-ce que vous héritez peut-être aussi de Gabilly? C'est peut-être aussi le rapport à la troupe, l'envie de compagnonnage au long cours. La troupe, la compagnie comme antidote à l'individualisme, alors de nos sociétés, mais aussi de ces métiers-là.
Oui, je pense que même tous les metteurs en scène de théâtre, et au fond, certains réalisateurs de cinéma ont en eux le rêve secret de la troupe. Des gens comme Ariane Mouchkine, évidemment, Joël Pomera, qui voulait monter une troupe avec ses comédiens, Jean-Pierre Vincent, qui a fait des spectacles qui n'étaient jamais aussi heureux, je pense, que quand il rassemblait autour de lui une troupe d'acteurs, Vitesse, pareil, etc. Donc, je pense que oui, dès que sur le plateau, on a des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, on va plus vite, on cherche mieux. On trouve pas forcément plus vite, mais on cherche mieux et on cherche dans la même direction.
Alors, par contre, j'avais jamais pensé, je dois dire, avant de préparer cette émission-ci, Jean-François Sivadier, parce que c'est assez rare pour un metteur en scène de votre envergure, on va dire, vous n'avez jamais dirigé d'institution. C'est un choix.
Grosse question. Ça me travaille de temps en temps, quand même.
J'imagine qu'on vous a proposé.
Ma candidature au Théâtre National de Strasbourg. Et ça ne s'est pas fait. Donc des fois, je me sens très bien dans les maisons, en fait. J'adore rester 3 semaines dans un théâtre, rencontrer la technique.
Pas 3 ans.
Alors, 5. Disons que devenir directeur, c'est changer de métier un petit peu quand même. Donc, il faut être prêt à ça. Et quelquefois, je me dis que c'est pas forcément... ce que j'ai profondément envie de faire, mais j'ai...
Ça pourrait venir.
Ouais, c'est un peu tard, mais ça pourrait venir, ouais.
Ouais. Pas trop tard. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a peu d'exemples de metteurs en scène qui ont eu votre parcours qui n'ont pas dirigé le lieu.
Oui, il y en a certains qui n'ont jamais voulu aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est
généralement un choix. Ouais. On parlait de compagnonnage, évidemment, et on va évidemment parler du comédien Nicolas Bouchaud, qui a été de presque tous vos spectacles pour le théâtre. Et au mois de décembre dernier, il était l'invité de cette émission, qui était menée ce jour-là par Antoine Léris.
C'est très difficile de dire ce que c'est qu'un directeur ou une directrice d'acteur, c'est-à-dire que ça se fait tellement par capillarité, ce rapport entre la mise en scène et le jeu. C'est tellement des choses qui passent pas forcément par des phrases construites et très claires et intentionnelles que pourrait vous dire un metteur en scène par rapport à ce qu'il faudrait faire sur le plateau, parce que dans la pièce ça serait comme ça. Parfois c'est des choses tout à fait indirectes qui vous aident le plus. Et Didier, par exemple, je me souviens, Gabili, il faisait cette chose très étonnante, c'est que vous étiez sur le plateau ou vous en répétition, et puis il venait tout près de vous, mais vraiment tout près, et il était un peu courbé comme ça, il ne vous touchait pas, il était près de vous, vous pouviez sentir son souffle dans votre oreille, il disait un peu des mots, parfois on comprenait pas très bien ce qu'il disait, mais tout d'un coup, quelque chose se passait. Le travail avançait, vous trouviez un truc, un geste juste, quelque chose de juste. Dans ces moments simplement où le corps de Didier était proche du vôtre. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très difficiles à décrire, c'est ce rapport-là de qu'est-ce que c'est que la direction d'acteur. Mais c'est très intéressant. Je dis ça parce que je pense que Didier Gabili était un grand directeur d'acteur. Mais parce qu'il a fait des ateliers d'acteur pendant 15 ans, sans qu'il y ait de spectacle au bout, que c'est quelqu'un qui a regardé les gens, qui vous regardait vraiment. Et la première chose que j'ai apprise, qu'on m'avait pas du tout apprise en cours avec lui, c'est que on travaille avec ce qu'on est. Et on travaille pas d'abord en essayant d'être quelque chose qui vous serait extérieur et qu'on pourrait appeler le personnage ou, mais on travaille simplement avec ce qu'on est, avec son corps, et donc avec son chaos, parce qu'aussi avec ses défauts, et aussi avec sa laideur, et aussi, je dis toujours, Didier, il nous a un peu déniaisé parce qu'on avait 25 ans et on avait sans doute envie de rentrer sur le plateau, d'être beau, d'être là, d'être puissant, d'être plein de présence et d'énergie. Et lui, il nous a souvent un peu sali, on va dire.
Ah, voilà. Alors, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-François Sibadier, dans ses propos de Nicolas Bouchaud, dans la direction d'acteur de Didier-Georges Gabili. Ce compagnonnage avec Nicolas Bouchaud, on voit bien, alors vous travaillez avec ce qu'il est, lui, qu'il soit Danton, Lear, Alceste ou Iago, c'est Nicolas Bouchaud, votre matériau de départ.
Ben oui, de toute façon, je crois qu'il y a toujours des personnes en face de soi. C'est d'abord des personnes. Alors, il y a Nicolas, il y en a beaucoup d'autres. Nadia Van der Heyden, Vincent Guédon, par exemple, Stéphane Butel.
Mon idole.
Il y a des personnes en face de soi. Donc, c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Non, je pensais à ce qu'il racontait aussi. C'est marrant parce que des fois, je me dis que les acteurs, en fait, profondément, ils savent quoi faire. Ils savent comment jouer. Et même des fois, les très jeunes acteurs, ils savent quelque chose profondément en eux, s'ils ont vraiment envie d'être sur un plateau. En fait, ils savent comment faire et il faut simplement accoucher, enfin, les faire redécouvrir ce qu'en fait, ils savent. Quelque chose d'eux, leur corps ou, je sais pas, leur intimité, savent comment faire et il faut simplement les accompagner sur le chemin qui va leur permettre de s'épanouir et de trouver leur liberté. Et puis, il y a cette fameuse phase de Gruber qui est mettre en scène, c'est retirer la peur des acteurs. Alors ça, je pense énormément à ça. Quand les gens n'ont plus peur, ou qu'ils travaillent sur une vraie peur intéressante, fructueuse, mais sinon, quand ils sont débarrassés de l'angoisse de rentrer sur le plateau, ils travaillent déjà beaucoup mieux. Et cette phrase de Gruber, j'y pense encore plus à l'opéra, en plus, parce que je pense que les chanteurs d'opéra, ils travaillent avec la peur, beaucoup plus que les acteurs.
Mais alors, pour revenir à la question qui était posée à Nicolas Bouchaud sur la direction d'acteur, qu'est-ce que c'est qu'un directeur d'acteur ? C'est regarder, on en revient là ?
Oui, c'est regarder, accompagner. Moi, je pense que si j'étais pas acteur, je serais incapable d'être metteur en scène. Parce que je saurais pas comment ça marche, les acteurs. Enfin, vraiment, pour le comprendre... Enfin, ça m'a énormément aidé d'être acteur parce que sinon, je crois que je saurais pas comment marche un acteur ni un chanteur. L'alchimie, enfin, tout ce qui se passe dans la tête d'un acteur, c'est tellement incroyable que pour le sentir, pour le comprendre, enfin moi ça m'a aidé énormément de d'être acteur quoi. Donc il y a en plus évidemment par exemple si on travaille avec 10 acteurs, on va travailler 10 fois enfin sur 10 façons d'être sur le plateau. Il y a les on a pas du tout le j'ai pas du tout le même discours, enfin la même direction que je peux avoir avec Nora Krief ou Nicolas Bouchaud, Vincent Guédon, etc. C'est vraiment oui, c'est un accompagnement, c'est extrêmement difficile d'en parler en fait hein. Non mais c'est vrai hein.
Oui, mais je me doute bien parce que le travail
mais il en parle très bien Nicolas. Enfin,
Mais à propos du fait que vous soyez comédien, mais vous l'êtes toujours, vous montez régulièrement sur les scènes, vous jouez aussi dans quelques films, quelques séries, on vous y voit de plus en plus, c'est toujours réjouissant de vous y voir. Ça correspond chez vous à quoi? À un besoin justement de retrouver cette part du comédien en vous ou à un désir de jouer?
Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que quand on me demande, c'est que je me sens désiré en fait. Mais alors je peux avoir envie de jouer dans mes propres spectacles, mais comme metteur en scène, on peut pas se désirer, comme acteur, on peut pas se désirer soi-même. On peut avoir envie de jouer, mais alors ce qui est très agréable là en l'occurrence avec Jean-Xavier de Lestrade et Fabrice Gobert, c'était que tout à coup quelqu'un avait envie que je rejoigne l'équipe, donc c'était formidable déjà de découvrir, ah oui en fait c'est super quand on est acteur, enfin il y a des gens qui ont envie de travailler avec nous, ça peut être super. Et puis c'était un cadre très précis parce que c'était vraiment des équipes, alors là pour le coup de théâtre, enfin c'était vraiment des équipes très fortes, très très sympathiques, c'était un cadre, je pense que c'est pas toujours comme ça au cinéma, mais là c'était vraiment très très agréable, il y avait beaucoup d'acteurs de théâtre
ce qui se voit dans la qualité de jeu.
Oui, les réalisateurs installaient une ambiance de travail extraordinaire,
donc plaisir,
oui que ça, après c'est dur hein, quand on n'a pas fait ça, non mais c'est vraiment un métier hein, d'être acteur au cinéma. C'est vachement dur. Moi, j'apprenais beaucoup en regardant les autres. En fait, je me faisais des notes à moi-même. J'essayais d'avoir...
Et quand vous jouez dans vos spectacles, ça se passe comment, là?
C'est plus simple parce que je me dis... bon, j'ai déjà fait la mise en scène, c'est déjà pas mal, donc j'ai le droit d'être mauvais, quoi. Et si on se dit, on a le droit d'être mauvais, ben c'est là qu'on commence à travailler sérieusement.
Alors, scoop, Nicolas Bouchaud ne joue pas dans Sentinelle, actuellement à l'affiche du Rond-Point. Ce sont donc Vincent Guédon, Julien Romelard et Samy Zerouki qui portent votre texte. Je l'ai dit, Jean-François Siffadier, c'était passé plus de 20 ans entre la création de Nos Limites Inguérées et celle de Sentinelle. Entre-temps, vous avez connu en effet très grand succès pour de très beaux spectacles, de La Vie de Galilée, de Brecht au Roi Lear de Shakespeare, dans la Cour d'honneur à Avignon, de L'Irrésistible Dame de chez Maxims de Feydeau, au Misanthrope de Molière. On pourrait se dire aussi que c'est d'avoir tant monté d'autres textes qui vous a fait revenir au texte.
À l'écriture,
ah oui.
Ah ouais, bien sûr. À force de porter la parole des autres, on a envie de se coltiner à la question.
De la reprendre.
Oui. Puis c'est des vraies questions. Alors c'est tellement difficile et c'est aussi un plaisir énorme, hein. Mais c'est vraiment des défis, quoi. C'est vraiment des questions, l'écriture. Qui sont totalement différentes de celles de se retrouver devant un plateau avec des comédiens. Enfin, c'est un travail de fond. C'est d'ailleurs l'écriture de Sentinelle était très très longue. Ça a duré près de 4 ans la gestation de ce spectacle, puisqu'il y a eu des arrêts dans les répétitions, des reprises. Donc il y a un temps de maturation qui était très long. Mais oui, c'est des questions passionnantes. Je trouve, vraiment.
Alors, questions passionnantes qui sont celles aussi posées dans Sentinelle par ces trois amis, trois pianistes. D'abord étudiants, aspirants, apprentis. Et on sait que la musique, c'est donc une part importante de votre vie. Et même si on n'a pas le temps d'en parler vraiment, aujourd'hui, vos mises en scène d'opéra sont pour moi aussi de très grandes réussites. Il faut dire que vous avez failli abandonner le théâtre, paraît-il, pour passer le concours de l'École des chanteurs de l'Opéra de Paris. C'est vrai, ça?
Ça m'a duré 3 mois.
Ouais.
Je me suis dit, je vais arrêter d'être acteur, je vais passer des concours, mais j'ai pas la patience, j'ai pas le niveau, j'ai pas le talent, mais j'avais très très envie, vraiment. Ça m'a duré 3 mois.
Bon, c'est pas mal. Mais bon, vous avez retrouvé les chanteurs autrement. Mais la musique, donc, très présente dans Sentinelle, même si elle est aussi un prétexte pour des considérations qui embrassent tous les arts, hein, toutes les pratiques artistiques, la musique, il y en a beaucoup dans le spectacle, et pas seulement du piano classique, puisqu'on entendra notamment Barbara, mais surtout du piano classique. Pour autant, il n'y a pas de piano sur scène. Ça, c'est un choix évident de mise en scène dès le départ.
Oui, parce que d'une part, les trois comédiens ne sont pas de grands virtuoses, donc ils auraient été incapables de jouer les variations.
Vous auriez pu tricher et mettre le clavier en fond de scène.
Oui, c'est ça, mais ça aurait été de la triche, justement. Et puis, d'autre part, pour dire que quand on regarde un pianiste jouer, on regarde jamais le piano. On regarde toujours le corps de l'interprète. Et donc, c'était vraiment s'amuser à ce que les acteurs se rêvent comme des grands, grands pianistes et travaillent plutôt sur une intériorité, en fait, que sur une représentation, sur un mime ou sur une... sur une façon d'illustrer... Le piano.
L'intériorité ressort devient dense. Mais alors, pour rester dans le sujet de cette pièce, j'avais reçu en mai 2022 dans cette émission le pianiste Alexandre Kantorov, qui a remporté à l'unanimité, vous le savez, chose rare, le premier prix, la médaille d'or au concours Tchaïkovski de piano. C'était en 2019. Hein, c'est un concours, on le rappelle, qui n'a lieu que tous les 4 ans. C'est comme la Coupe du Monde de foot ou de rugby. Alexandre Kantorov, il avait 22 ans quand il l'a remporté. C'est le seul Français, pour l'instant, à avoir gagné la médaille d'or de ce concours, ainsi que le Grand Prix qui a été décerné seulement 3 fois avant lui. Le concours existe depuis 1958. Écoutez, je l'interrogeais sur ce concours.
Il y avait quelque chose à perdre, mais ça faisait longtemps que ce concours me passionnait, ça faisait longtemps que l'histoire dans la salle du Conservatoire de Moscou, elle est tellement riche que j'avais envie d'en faire partie, j'avais envie d'essayer. Et je sais qu'après, effectivement, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à tel point que la première priorité, le premier instinct que j'ai eu, c'est au contraire comment je fais pour garder... intacte ma vie, comment je fais pour garder les choses importantes et ne pas trop changer, justement. C'était bizarre. Il y avait un tel tourbillon, j'ai même pas pendant longtemps pu profiter ou apprécier vraiment ce qui s'était passé ce moment-là. Je l'ai vécu avec pas mal de mécanismes de défense pour me faire continuer, me donner le courage d'enchaîner un rythme nouveau de concert qui était tellement plus soutenu, d'apprendre à travailler le jour même des pièces qu'on joue pas le soir même et penser déjà à ce qu'on fait pour après. Moi qui suis déjà pas organisé pour répondre à un mail, là soudain c'était hyper compliqué. J'avais la chance, j'étais bien entouré et je suis resté bien entouré.
Alors, je vais pas divulgâcher la fin de Sentinelle, Jean-François Sivadier, mais un concours, c'est une violence. Et le plus grand concours de piano du monde, c'est une très grande violence, évidemment. J'étais très étonné de voir à quel point Alexandre Kantorov a l'air d'être un jeune homme tout à fait bien en sa peau.
Il est venu d'ailleurs voir le spectacle, il nous a raconté.
C'est
le
vrai
concours, ouais, de l'intérieur. Ouais.
Ah, formidable. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a fait un retour sur le spectacle?
Oui, bah c'est-à-dire que les Alexandre Tarot aussi, il est venu, ils sont vraiment surpris de voir à quel point on rentre dans la matière de leur métier en fait et qu'on le prend très au sérieux en fait et qu'on arrive à parler au théâtre de musique comme ça. Je crois que c'est ça. C'est même mon frère qui est venu. Ce qui leur plaît, c'est de parler sur un plateau de théâtre de la musique. Donc pas forcément d'en faire, mais de. Effectivement, bon, Kantorov qui nous raconte le concours Tchaïkovski, c'est une expérience, c'est incroyable parce qu'évidemment, c'est terrifiant. Enfin, lui, il l'a pas vécu forcément comme un cauchemar a posteriori. Mais voilà, nous on le montre plutôt comme une chose un peu cauchemardesque.
Ouais. En tout cas, on va dire que c'est l'objet de vives tensions entre les trois amis de départ. Mais alors, c'est vrai qu'inscrire son nom à ce palmarès du concours Tchaïkovski, peu l'ont fait. C'est donc inscrire son nom dans l'histoire de l'art. Et ça, c'est une question que j'aimerais évoquer aussi avec vous, Jean-François Sivadier, celle de la postérité, en passant par une archive. Il paraît que vous connaissez par cœur, puisque c'est le Radioscopie de Jacques Chancel avec Antoine Vitez. En 89, il venait d'être nommé administrateur général de la Comédie Française.
Je sais bien que, comme tous les gens qui se lancent dans une action politique, ou une action, oui, une action publique, enfin, on a l'ambition, même si on veut pas trop s'en parler à soi-même, de laisser un héritage. Mais je ne sais pas lequel. Ça, vraiment, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas ce qui restera de ce que j'ai fait. De toute façon, ce qui reste de ce que fait un homme de théâtre, c'est toujours contestable parce qu'on ne le voit plus. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le saisir. Mais oui. C'est sûr, oui, que je pense, enfin bien, que j'ai le désir pas très clair en moi de laisser une trace.
Alors, il se trouve que là encore, un peu plus d'un an plus tard, Antoine Vitez mourra, lui, à l'âge de 59 ans. Mais un mot tout d'abord, avant d'évoquer ce qu'il vient de dire, Jean-François Sivadier, pour votre goût des archives radiophoniques.
Oui, c'est vrai. Je l'ai, cette émission. Je la connais par cœur. Mmh. J'adore la voix de Vitez.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. La musique.
Ouais, ouais.
Et ce qu'il dit, peut-être, quand même.
Oui, 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 bien sûr. Mais la douceur, l'intelligence, l'ouverture, la clarté, enfin, c'est une... ouais.
Ça, vous l'écoutez régulièrement?
Non, pas régulièrement.
Enfin, régulièrement. Mais si vous la connaissez, vous l'avez écouté un certain nombre de fois.
Oui, oui, oui.
Il y a d'autres archives comme ça.
Ça me calme, la voix de Vitez me calme.
Ah, c'est mal. Bon, hein. Heureusement, il a donné beaucoup d'interviews.
Oui.
Donc ça, c'est pas mal. Mais pour revenir à cette question qui lui était posée, est-ce que vous pensez à cette question de laisser une trace?
Ah ouais. Non, mais c'est une question très perturbante. C'est marrant parce qu'on en a parlé aujourd'hui avec Véronique Simsit. C'est une question très perturbante. Quand on travaille aujourd'hui avec des acteurs de 20 ans et qu'on leur parle d'Antoine Vitez ou de Gruber ou de Pina Bausch, Philippe Clévenot, ils nous regardent avec des grands yeux. Alors là, on sent qu'on a pris un coup dans l'âge, mais c'est comment transmettre cette chose-là. Enfin, ces spectacles qu'ils nous ont faits, ces metteurs en scène, ces acteurs... Alors voilà, c'est une question. Voilà, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question.
Ça revient. Alors pour partie et pour petite partie, certes, mais à la question de la captation au théâtre. Moi, je sais que j'ai pas vu les mises en scène d'Antoine Vitez, mais je les ai vues à un moment où le dimanche matin sur Arte, il y avait des diffusions comme ça. Mm-hmm. J'ai vu ces spectacles à Chaillot. Ouais. Donc j'ai quand même perçu quelque chose de similaire. J'ai eu la chance de voir le Soulier de Satin à Avignon, mais c'est une autre histoire. Mais est-ce que vous attachez une importance à la captation de vos spectacles?
Moi, j'adore les captations. Je sais qu'il y a peu de metteurs en scène qui aiment. Je trouve ça très important parce que moi aussi, j'ai eu l'occasion, je sais pas, de voir les Bacchantes montées par Gruber, de voir des spectacles de Vitez, Cantor, etc. Donc, je pense que c'est, alors là, pour la transmission, pour la mémoire du théâtre, ça peut être des documents extraordinaires. Moi, quand je peux le faire, je le fais. Mmh. Donc, effectivement, je trouve ça important.
Ouais. Oui, parce que ce n'est pas très bien, ça change, mais c'est pas très bien vu quand même.
Non.
Comme si c'était impur.
Oui.
Bien sûr, rien ne remplace l'expérience de la salle.
Il n'y a pas longtemps, parce que lui ne veut pas filmer ses spectacles, il en a filmé un, et je crois qu'il est en train de changer un petit peu d'avis, mais je disais, mais c'est très très important de filmer les spectacles, parce que, enfin vraiment, pour la mémoire, mais aussi pour les futures générations qui vont se demander ce qui s'est passé,
Alors, est-ce qu'on... pense plus à la postérité quand on écrit. Parce que là, il y a des livres, sur les terrains tempestifs, il y a des textes signés Jean-François Sivadier. Ça va rester.
Oh, ça, je sais pas. Alors là, je serais tenté de répondre comme Vitez.
Non, mais par définition. Le livre, il est là.
Oui, oui.
Il existe.
Oui, oui.
Et pour autant, il n'est pas figé. Parce que quand vous montez Sentinelle, vous coupez dans votre texte.
Oui, 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 oui. Bah oui, il est pas. On n'aurait pas pu monter tout ce qui est édité parce que ça aurait été trop long. Oui, oui, le livre existe et puis tant mieux. Mais moi, à chaque fois que j'ai écrit, encore une fois, c'était pour des circonstances très particulières, pour un temps donné, des acteurs. Je sais pas ce qu'on. Voilà, tant mieux si ça reste.
Parce que vous avez repris votre mise en scène de La Vie de Galilée il n'y a pas si longtemps. Mais vous aviez donc aussi recréé vos deux premiers textes, italienne devenue avec scène et orchestre, Noli me tangere. revenir à un spectacle, c'est aussi voilà, essayer d'en faire un nouveau ou de le faire mieux.
C'est marrant parce que c'est une question qu'on s'est posée quand on a fait La Vie de Galilée. On s'est dit, on ne va pas refaire le même spectacle des années après. Et en même temps, on s'est dit, on n'avait pas le temps de refaire un autre spectacle. En même temps, les questions dramaturgiques qu'on s'était posées, elles restaient toujours présentes. Donc, on s'est dit, mais non, en fait, on va refaire le même spectacle et ce ne sera plus le même parce qu'on aura vieilli. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a refait la même mise en scène, les mêmes axes dramaturgiques. Il y avait un ou deux acteurs qui avaient changé. Mais en fait, le spectacle avait énormément mûri. Alors moi, je me disais, voilà, c'est comme Vitesse avec Electre. C'est fou, on va le reprendre dans 20 ans. C'est quand même une des plus belles pièces du XXe siècle. Et voilà, c'est un spectacle. Voilà, le temps a fait son ouvrage sur la...
Sur le travail.
Reprendre
vos textes ou les réécrire, pourquoi?
Bah parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que si on refaisait Sentinelle dans 10 ans, j'aurais envie de le réécrire, de le retravailler, de le faire mûrir.
Parce que la notion de texte définitif, ça n'a pas de sens pour vous en tant qu'auteur.
Au théâtre. Alors en tant qu'auteur de théâtre, non, c'est très compliqué pour moi que ça soit totalement figé. J'imagine pas. D'ailleurs, enfin, je peux dire, il y aurait des choses si je le relisais là maintenant que je pourrais couper ou retirer ou des passages que je pourrais rallonger.
Se pose aussi l'éternelle question de. C'est le problème avec les captations, c'est que la captation, c'est une fois où on peut faire un montage de trois représentations.
C'est vrai.
Mais c'est, vous me disiez avant que l'émission ne commence, vous en êtes à peu près à 120 représentations de Sentinelle. Qu'est-ce qui change entre la première, la 30e, la 100e, la 120e?
Alors, comment le texte rentre dans le corps des acteurs? Ça, c'est incroyable. Tout à coup, parce que quand on joue longtemps, on s'habitue à jouer, par exemple, un soir où on n'a pas envie de jouer, où on est malade et où on doit jouer quand même. Des soirs où le public a l'air complètement absent, totalement, enfin, aucune réaction, et puis le lendemain c'est exactement le contraire, et on apprend à vivre avec ce temps-là, des représentations qui changent, qui évoluent, et donc c'est comme si le corps avait incorporé tous ces changements-là, et je le vois vraiment dans le corps des trois acteurs, qui n'est plus du tout le même si le spectacle est le même que quand on l'a créé il y a 2-3 ans, les corps ne sont plus les mêmes. Vraiment.
Peut-être une dernière question, très rapidement. Vous essayez d'y aller le plus souvent possible, justement, pour voir comment ça bouge et comment ça doit ne pas bouger.
Oui, là, j'y vais tous les soirs. Enfin, j'y suis tous les soirs, je regarde le spectacle tous les soirs, j'y arrive, quoi. À regarder. Parce que c'est dur de regarder son spectacle tous les soirs.
Mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire, ouais. Il y avait une remarque de Bergman que je trouve très drôle, qui disait que la plus grande torture qu'on aurait pu lui infliger, c'est de l'attacher sur une chaise, les yeux ouverts, et de l'obliger à regarder tous ses films. Je trouve ça extraordinaire. Non, mais parce que c'est très dur de regarder son spectacle, en fait.
Ouais. Bon courage, il en reste quelques-unes. Jusqu'au 10 février, Sentinelle, texte, mise en scène, scénographie. On n'a pas parlé. Jean-François Civadier, c'était l'affiche du Théâtre du Rond-Point. Ce sera du 14 au 16 février au Théâtre National de Nice, avant d'autres dates à venir la saison prochaine. Tous vos textes sont publiés aux Solitaires Intempestifs. Merci, Jean-François Civadier.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
L'album folk de ce début d'année est sorti, intitulé Peacemaker. Il est signé Vera Sola, artiste américaine-canadienne dont la carrière dans la musique a débuté en 2017. De son vrai nom, Daniel Aykroyd, cette diplômée de l'université de Harvard, avait réussi son entrée avec son premier album, Shades, paru en 2018. Désormais signé sur le label City Slang, une place forte de la musique indépendante qui produit entre autres Caribou et Boy Archer, Vera Sola voit grand. Réalisé à Nashville avec une dizaine de musiciens, Peacemaker offre un véritable panorama de la musique folk nord-américaine où dominent les cordes et les textes bien cousus. C'est le cas sur notre son du jour, le morceau Bad Idea, merveilleuse chimère dont les parties doivent aussi bien à Nick Cave qu'à Lana Del Rey.
say, come and spark up the forest. Out late, the twilight her glow. Make way for the dark to set us under. Our city by the ashes overthrow. Oh, it's a bad idea. Back then, it was only but a sentence. Shadow ball in the falling of an old. How quick we falsified the promise. Take tomorrow out on loan.
C'était Bad Idea de Vera Sola, extrait de son nouvel album Peacemaker.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir, chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, ce soir je vous emmène dans le tombeau de Toutankhamon, alors enfin dans sa reconstitution, qui est présentée sous forme ludique et théâtralisée aux Galeries Montparnasse à Paris. Plus de 1000 objets sont rassemblés ici pour la première fois, mais pour avancer dans l'exposition, il faut y mettre du sien et répondre aux différentes énigmes. Alors tout se présente comme une reconstitution, hein. Là il y a beaucoup de tentes autour de nous, avec des équipements pour les explorateurs, des cordes, des lampes à pétrole, une pile de Daily News avec écrit en une « Le trésor de Toutankhamon reste introuvable ». Et là on s'apprête à rentrer dans la tente d'Howard Carter.
Ah mes amis, merci d'avoir répondu à mon annonce. Merci de venir. Je vois que vous avez un journal. Montrez-moi ce journal.
Bien sûr.
C'est étonnant. Je l'ai lu tout à l'heure, ce journal, mais des éléments semblent avoir changé. Regardez. Je suis l'esprit de Toutankhamon. Résolvez mes énigmes dans l'ordre de votre choix. Soyez avertis. Le trésor caché demande de déchiffrer le mot de passe énigmatique et révéler l'image prophétique. Il est fait mention d'une chambre secrète, la salle au trésor. Et chaque page est une énigme à résoudre pour pouvoir réussir à décrypter le mot de passe et trouver tous les symboles à remplir pour révéler l'image prophétique. C'est à vous de jouer. Maintenant, il faut rentrer dans le tombeau. Grâce à vous, nous avons la chance de pouvoir faire la plus grande découverte au monde. Si nous réussissons, le nom d'Howard Carter et de ses fidèles compagnons sera à jamais associé à la légende de Toutankhamon.
Bonjour. Lady Evelyn, la fille de Lord Carter, le financeur de l'expédition. Est-ce que vous savez ce que sont ces vases ?
Ce sont
des vases canopes. Vous savez, dans les vases canopes sont conservés les organes. Les prêtres égyptiens avaient une conservation fantastique des vases. Mais je ne sais pas quel organe est dans quel vase. Et la dernière fois que j'ai plongé ma main dans un vase canope, quelque chose a rampé sur mon bras. Une leçon mémorable. Est-ce que vous seriez...
On doit aller voir. Allez.
Merci pour votre aide.
Je vous laisse faire, madame. Hein. C'est vous qui allez mettre la main dedans, je crois.
Allez, je mets la main dedans.
Merci.
Peut-être un cobra va me piquer. Hein.
Peut-être. Je serai témoin de votre sacrifice.
Oui, voilà, bon, alors... Oh, j'ai peur.
Il faut que je touche vraiment.
Vous êtes très courageuse, tout au fond.
Je mets ma main dans le truc bizarre.
Tout au fond du vase.
Oh, c'est affreux.
Je vous comprends.
C'est dégoûtant. Oh, quel horreur.
Alors, les visiteurs déambulent, en fait, dans cette énorme exposition, dans cette énorme reconstitution, avec le fameux Daily News à la main. Et donc, vous l'aurez compris, chaque salle, en fait, a ses énigmes. Donc, c'est totalement participatif. Hein. On doit mettre les mains dans des vases, chercher des objets, trouver des indices. Et donc, on voit tous les spectateurs de tous âges se promener avec leurs journaux à la recherche des indices nécessaires pour aboutir à la fin de la quête.
Il nous manque tête de monsieur ou tête de chien.
Ça va, vous avancez bien dans votre quête ou...
Ah oui, ça va pour l'instant.
À votre rythme, c'est bien, chacun son rythme.
C'est ça, exactement.
Petit coloriage et on découvre.
Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis le gardien du temple.
Comment on fait pour entrer dans le temple ?
Vous faut répondre aux deux énigmes. La première visuelle et la seconde, un mot de passe.
C'est vous donc qui avez les clés de l'accès au temple, quoi.
C'est moi qui vous autorise ou pas à rentrer dans la chambre du trésor.
Je crois que je viens de passer le test.
Do you see anything?
I see wonderful thing.
Eh bien, pour l'anecdote, c'est la première phrase que prononça Howard Carter en entrant, comme vous allez le faire, dans la chambre du trésor. À partir de ce point, il n'y a plus de retour en arrière.
Eh bien, me voilà toute seule dans cette chambre au trésor, qui est comme on peut se l'imaginer. Hein, on est dans une énorme pièce avec différentes vitrines, des masques d'or, des représentations de Toutankhamon sur une barque de papyrus, des bijoux, des coffres. L'or prédomine, mais il y a aussi beaucoup d'objets en ivoire. On reconnaît des incrustations de lapis-lazuli. Et au centre, eh bien, on retrouve la chapelle au canopes. Une chapelle dorée hein, montée sur un traîneau, et c'est là où étaient renfermés les viscères embaumés du jeune roi Carter, hein, le découvreur de cette chambre, la qualifia tout de suite de monument inoubliable.
Alors, je m'appelle Bénédicte Loyer. Je suis docteur en égyptologie, professeur à l'école du Louvre et chargé de projet au musée de Picardie à Amiens.
Alors là, on est dans une exposition immersive. Ce ne sont pas de vrais objets qu'on voit, ce sont des reproductions. Qu'est-ce que vous avez voulu entreprendre comme, j'allais dire, projet muséographique ou en tout cas d'exposition ici ?
Ce qu'on a voulu, c'est véritablement pouvoir plonger les gens dans le tombeau de Toutankhamon tel qu'il a été découvert par Howard Carter en novembre 1922. Les objets de Toutankhamon, c'est un ensemble incroyable. Il y a 3598 objets au total dans la tombe. C'est un ensemble qui est tellement fragile qu'il ne peut pas être bougé. La dernière fois que certains objets sont venus en France, c'était en 2019 à la Villette. On n'avait que 150 objets, mais parce qu'on avait les doubles, c'est-à-dire une boucle d'oreille sur deux ou une statue sur deux. L'avantage d'avoir ces répliques, qui ont été faites il y a une quarantaine d'années par le musée du Caire, ça a été vraiment piloté par le musée, ça permet de pouvoir refaire des objets à l'identique. Et là, surtout, on est vraiment avec une collection où le moindre petit détail, même le moindre petit défaut a été refait. Ce qui fait que là, on peut vraiment jouer avec ces objets pour pouvoir les remettre un peu dans la configuration initiale. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun problème pour les réempiler, les mettre les uns sur les autres, de remettre un petit peu ce bazar qu'il y avait dans la tombe lorsque ça a été découvert en 1922. Parce qu'il faut imaginer une tombe assez petite, hein, 90 mètres carrés à peu près, mais avec ce bric-à-brac absolument incroyable, qui a mis des années et des années à être catalogué, inventorié et puis à être sorti. Donc là, le jeu, c'est de pouvoir véritablement montrer aux gens ce que c'est que la tombe de Toutankhamon, comme Howard Carter aurait pu le voir. Sauf qu'on a un jeu, c'est qu'on est aussi sur une surface de plus de 3000 mètres carrés. Donc,
oui, c'est immense, hein, on se promène sur des salles.
Voilà, ça veut dire que c'est comme si on avait un peu étiré cette tombe de façon à rendre les choses un petit peu plus confortables, de façon à pouvoir, par exemple, faire sortir les objets qui étaient les uns dans les autres. On avait ce système de poupées gigognes, par exemple avec les chapelles dans la chambre funéraire, ou même, par exemple, avec les différentes chapelles canopes. Donc là aussi, ça permet d'apporter beaucoup plus de compréhension sur l'ensemble de ces objets avec une bonne présentation et puis avec un peu cette ambiance de chantier de fouilles qui a un parfum quand même assez particulier.
Et une ambiance de jeu aussi, ce que vous l'avez dit. Tous les visiteurs ont un journal en main. Ils doivent répondre à des questions, trouver des mots, avancer dans les énigmes. Est-ce que ce côté ludique, c'est aussi pour appuyer le côté immersif et faire vraiment rentrer les gens dans la peau d'un explorateur ?
C'est ça. C'est vraiment, vraiment ça. Et surtout, c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on est vraiment avec un concept complètement inédit. On a voulu réussir à avoir quelque chose de très équilibré entre un aspect scientifique, où les choses doivent être au cordeau, où on a bien vérifié les traductions, tous les éléments sont bien refaits, et en même temps, un côté qui permette aux gens de pouvoir s'emparer vraiment de cette tombe, dans le sens où on va aller regarder, sentir, toucher, regarder beaucoup plus attentivement certains éléments pour réussir à trouver les énigmes, finalement.
Merci beaucoup.
Oh, mais je vous en prie, avec plaisir.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sanvier, où serez-vous ?
Arnaud, demain, je serai au Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice Oursoury-Garaille.